Le journal de l'économie avec François Geffrier.
6h49, l'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, quelle est la réalité du statut des contrôleurs aériens? Salaire, temps de travail, on va tout décortiquer. L'ampleur du plan social de Casino inquiète, surtout dans une ville, Saint-Étienne, déjà en manque d'emploi. Et puis l'Europe veut retrouver sa souveraineté en matière de médicaments. Le pont de l'Ascension semble sauvé pour ceux qui devaient prendre l'avion. En revanche, pour aujourd'hui, les perturbations restent massives. Plus de 2000 vols annulés au total en Europe à cause de la grève. Et ce, malgré la levée, trop tard, du mouvement par le principal syndicat des contrôleurs aériens. La réforme de l'organisation des tours de contrôle françaises devrait donc passer finalement, tout comme la modification du statut de ceux qui guident les pilotes. Un statut qui suscite beaucoup de questions et je vais vous les poser. Bonjour Emmanuel Liop.
Bonjour.
Vous êtes avocate, experte en droit du tourisme mais aérien au sein du cabinet Equinox. Question cash, peut-on dire ou non que les aiguilleurs du ciel ne travaillent pas assez?
Vous me piégez un petit peu. Écoutez, en tant qu'avocat, moi je dispose de données objectives. C'est assez difficile d'interroger des aiguilleurs du ciel en exercice. Et peut-être comme vous, selon les sources, il semblerait que les aiguilleurs du ciel, en tout cas en France, travaillent 32 heures par semaine. J'ai même vu certaines sources qui mentionnaient 24 heures. 51 jours de congés par an entre les congés classiques et les temps de récupération. Alors, ils ont une manière de travailler un peu spécifique puisqu'ils ont des pauses. Sur 8 heures de travail par jour, je crois qu'ils ont 2 heures de pause. Au final, ça équivaut, je crois, à 3 jours de travail suivis de 3 jours de congés. Alors, maintenant, moi, je souhaite à tout le monde de ne travailler que 150 et quelques jours par an. Hein. Je ne veux pas juger ça, mais voilà, il semblerait qu'objectivement, c'est ce qui se passe.
Un rapport du BEA qui est cité par Le Parisien évoque aussi des cas de contrôleurs qui ne viennent même pas travailler tout ce temps-là, voire ne viennent pas du tout. C'est la réalité?
Alors, moi, encore une fois, je ne suis pas dans leur tour de contrôle. Maintenant, ce que j'entends, mais ça fait de très nombreuses années, c'est que c'est un métier difficile, vous êtes devant des écrans, vous avez entre les mains la vie, en fait, de centaines de personnes qui sont dans les avions qui décollent et qui atterrissent, ou qui sont en approche. Peut-être qu'il y a des arrêts de travail, peut-être qu'il y a du burn-out, comme on dit, peut-être, voilà, toutes ces raisons peuvent peut-être justifier des absences. Maintenant, je ne suis pas certaine qu'on puisse, quel que soit le métier qu'on exerce, tout simplement ne pas venir travailler. Mais je ne me prononcerai pas.
Bon, chacun se fera sa petite idée. Alors, on les dit très bien payés, les contrôleurs du ciel, contrôleurs aériens. Où se situent les salaires et sont-ils plus faibles qu'ailleurs en Europe, comme le disent les syndicats?
C'est difficile de comparer ce qui parfois n'est pas comparable. Vous avez des pays d'Europe où le contrôle aérien est effectué par des sociétés privées. Je crois que c'est le cas en Italie ou en Allemagne, sauf erreur de ma part. Selon les sources, on va dire qu'en France, la moyenne, ça va être 3 000 euros par mois, sachant que par exemple à Roissy, on commence à 5 000, donc c'est 5 ans, ce sont des ingénieurs, 5 ans de formation pour terminer aux alentours de 9 000. C'était aussi le rapport du Sénat. En Suisse, ils sont à 10 000 euros par mois, même si ce n'est pas l'Union européenne au sens propre. En Belgique, c'est plutôt 3 000. Vous voyez, c'est difficile de comparer entre des services publics, des services privés. Maintenant, ce que je sais, c'est que vous savez très certainement que le transport aérien va augmenter. On annonce 20 à 30% de trafic supplémentaire d'ici 2030. Et la DGAC, dont dépendent les contrôleurs aériens, réfléchit à des solutions pour répondre à ce trafic accru. Et ces solutions seraient peut-être d'augmenter le temps de travail des contrôleurs, d'ajouter des journées en été, qui est une forte période. Et je pense que c'est ça que les contrôleurs critiquent. Alors peut-être que la solution, ce serait d'augmenter le nombre de contrôleurs. Ils sont 4000 environ en France. Ça, je l'ignore. Mais voilà, j'ai l'impression que la situation du temps de travail et des salaires, si on restait sur le statu quo, serait peut-être acceptée. Mais ce qui mobilise les syndicats, c'est les perspectives d'augmentation du temps de travail pour un même salaire.
Mais du coup, la question, c'est est-ce qu'on peut vraiment réformer cette profession compte tenu de son pouvoir de bloquer les vols et aussi de l'absence, qui est logique, de concurrence dans le contrôle aérien?
C'est l'éternelle discussion du service public en France, du service minimum. Et effectivement, alors notamment dans le transport, il n'y a pas que le transport aérien, le ferroviaire c'est pareil, les routiers on connaît leur pouvoir de blocage. C'est vraiment un équilibre, j'ai l'impression que tous les gouvernements se casse les dents, pardon pour l'expression, mais sur ce sujet-là, parce que dès que vous touchez, vous mettez en parallèle des antagonismes comme le droit de grève, la continuité du service public et même les droits des usagers, vous êtes dans la quadrature du cercle. Donc moi, je souhaite bon courage aux différents gouvernements, à la DGAC et au ministre, probablement, je crois que ça doit être le ministre de l'écologie et des transports qui s'occupe de ça. Je n'ai pas de réponse sur la réforme, mais je sais que c'est un serpent de mer.
Emmanuel Liop, merci beaucoup. Avocate experte en droit du tourisme aérien au sein du cabinet Equinox Avocat. On parlera de cet accord trouvé donc hier entre les contrôleurs aériens et le gouvernement, ou plutôt la Direction générale de l'aviation civile, dans l'édito d'Étienne Lefebvre à 7h10. Pour lui, c'est un bon accord. C'est le plus lourd plan social de l'année et la fourchette est large, hein, entre 1300 et 3300 postes supprimés chez Casino. Le nombre exact dépendra de la reprise ou non des magasins qui n'ont pas encore été cédés. Rien qu'au siège historique du groupe Casino à Saint-Étienne, plus de 550 postes sont menacés. Coup dur pour ce bassin d'emploi, Lucie Dupressoir.
Au siège de Casino, la menace planait depuis plusieurs mois. L'annonce de la suppression de poste n'a pas surpris les salariés. Karine est manageuse à la direction des approvisionnements.
On reste dans l'inquiétude malgré tout. Personne n'est en mesure de savoir si son emploi sera maintenu. C'est pas parce que mon poste sera maintenu que je garderai mon emploi.
D'abord en intérim, elle a gravi les échelons chez Casino et n'a jamais connu d'autre employeur en 17 ans.
J'ai pas forcément les diplômes correspondant à mon poste actuel. Est-ce que mon expérience va suffire? Ou est-ce que je vais devoir accepter un poste moins 10 ans? Et on ne va pas se mentir, le secteur géographique en termes d'emploi et de perspective de retrouver autre chose est aussi très inquiétant.
Car Casino est le premier employeur privé de la métropole de Saint-Étienne, Quentin Bataillon, député Renaissance de la Loire.
Je n'ai pas dans ma circonscription une seule personne qui n'a pas dans sa famille quelqu'un qui a travaillé ou qui travaille au sein du groupe Casino. C'est vraiment une fierté collective. Casino, en plus, a toujours été aux avant-postes de l'innovation. La chaîne du froid, c'est Casino qui l'a inventé. Le libre-service également. Le groupe Casino ne sera plus celui que nous avons connu.
Au-delà des postes, c'est aussi la question des entrepôts sur le territoire. Casino devrait garder le site de Corbas. Celui de Saint-Bonnet-les-Oules, au nord de Saint-Étienne, devrait être racheté par Intermarché.
Lucie Dupressoir pour Radio Classique. Elles sont à la fois angoissantes pour les patients, pour les parents notamment de jeunes enfants, et compliquées à comprendre dans un pays riche comme le nôtre. Les pénuries de médicaments ont fait la une de l'actualité depuis le Covid. Une alliance européenne du médicament est lancée sur le modèle de celle pour les batteries électriques. Concrètement, alors que 60 à 80% des principes actifs de médicaments européens proviennent d'Inde et de Chine, cette nouvelle structure doit permettre à terme à l'Europe de retrouver de la souveraineté, Rémi Fister.
Rien qu'en France, 5000 médicaments étaient en rupture de stock l'an dernier, c'est 30% de plus qu'en 2022. Amoxicilline, paracétamol, antidiabétique, des molécules pourtant indispensables qui manquaient partout en Europe, mais à des degrés divers. Cette alliance permettra désormais de centraliser les besoins et les stocks pour permettre des échanges de médicaments entre les pays. Associations de patients, médecins, pharmaciens et industriels, au total 250 acteurs échangeront étroitement au niveau européen. Autre volet très important, les relocalisations d'usines de médicaments. Pour le moment, chaque pays avance avec sa propre stratégie pour ne plus dépendre de l'Asie. L'alliance permettra d'éviter qu'il y ait par exemple 27 usines de paracétamol en Europe, alors que 3 suffiraient. Les commandes publiques de médicaments pourront également se faire d'une seule voix, ce qui pourrait inciter des industriels à venir s'installer sur le sol européen. Au niveau réglementaire, l'Alliance réfléchit également à autoriser plus rapidement la mise sur le marché de certaines nouvelles molécules.
Rémi Pfister, spécialiste santé de Radio Classique. Les marchés financiers tous quasi stables hier. Ce matin, en revanche, Tokyo perd 2%. L'euro est à 1,07$ et le baril de Brent à 88$. David Abiker et son orchestre arrivent dans un instant.